BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir de vous retrouver pour votre heure dédiée à la tech sur BFM Business, vous savez, le week-end. Et puis sur tous vos écrans, sur 01 TV et sur 01net.com, sur les applis. Appli 01net, BFM Business, mais aussi RMC, pour retrouver le podcast de quoi je me mêle en audio et en vidéo avec, pour votre rendez-vous dédié à la tech du week-end tout à l'heure, eh bien, un focus sur des marques vieillissantes. Certains diront même qu'elles pourraient disparaître, mais elles sont toujours là et on va s'intéresser quand même au prestige du son tout à l'heure avec Marantz, avec Bowers & Wilkins, avec Denon, qui aujourd'hui sont distribués en France par Sound United, et je recevrai le porte-parole donc de cette entité. On en saura plus et puis on s'intéressera, est-ce qu'il y a encore un marché sur la mini Shanify, sur tous ces produits qui, quand on était jeune, nous faisait rêver, mais qui ont été quand même un peu décimés par les enceintes connectées et le Bluetooth. Ça sera très intéressant, on en parle dans un instant. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là et bienvenue. Le club de la presse IT pour commencer. Anthony Morel est là. Bonjour Anthony.
Bonjour François, bonjour à tous.
Anthony Morel sur BFM Business. Tous les matins, il se lève tôt, beaucoup plus tôt que Nicolas Lelouch. Ça, c'est moi qui vous le dis.
C'est vrai. Bonjour François, bonjour Anthony.
Je me couche plus tôt aussi.
Oui, tu te couches plus tôt, c'est vrai.
Nicolas Lelouch, journaliste à 01net.com, bien sûr. Et Anthony, qu'on peut retrouver aussi sur RMC, vous le savez, tous les jours dans l'émission d'Estelle Denis. Alors, tous les deux, l'actualité tech de cette semaine, on va commencer par Apple. Et vous vous dites, oh, encore Apple ? C'est pas possible en fait. Nous n'avons pas d'action Apple. Personnellement, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que c'est eux, pour l'instant, qui drivent l'actu, Anthony.
C'est la plus grosse entreprise du monde, hein, en même temps. Donc, c'est pas complètement idée de parler d'eux.
C'est vrai, c'est celle qui fascine, c'est qui fait fantasmer aussi. Et alors, le dernier fantasme en date, eh bien, c'est les dernières rumeurs concernant l'Apple Car.
Ça faisait longtemps. Ça faisait combien, 15 jours qu'on en a parlé.
15 jours à peu près, oui.
Non, c'est vrai que ça revient souvent, hein, cette ouais, petite musique bah, de l'Apple oui. Car, ce projet titan, puisque c'est le nom de code en interne, de ce projet
quand
de voiture.
Quand je pense qu'elle est peut-être dans un parking quelque part,
mais
cette
oui,
voiture,
ça me rend
et
fou.
On en parle tout le temps.
Ça me rend fou.
C'est mais, dingue.
Attends, mais on en parlait déjà du temps de Steve Jobs de la voiture, donc il y a un moment, il va falloir qu'il fasse quelque chose quand même, Apple. Non, mais là, c'est intéressant quand même, parce qu'on a eu quand même quelques informations, des rumeurs, c'est Bloomberg qui a sorti ça, et notamment sous la plume de Mark Gurman, dont on parle souvent dans l'émission, et qui est... C'est aussi pour ça qu'on va donner écho à ces informations, qui est probablement le journaliste le mieux informé oui. du monde sur Apple. En général, il se trompe pas beaucoup, il dit beaucoup de choses assez exactes. Et là, il nous a donné des informations assez intéressantes. D'abord, une date, 2025, ce serait la date de commercialisation de la future Apple Car. Et il nous dit, Mark Gurman, qu'Apple travaille sur une voiture qui serait complètement autonome. Ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire une voiture, vous savez, une voiture autonome, ça va de niveau 0 à niveau 5. Niveau 5, c'est la voiture qui se débrouille complètement toute seule. Bah, ce serait vers ça que tendrait Apple. C'est-à-dire une voiture sans volant ni pédale, capable de se débrouiller toute seule dans n'importe quelle condition. Ce qui est assez étonnant parce que tous les constructeurs traditionnels ont plutôt tendance à rétro-pédaler.
Ouais, ouais, ouais. Oh là là, ils mettent ça sous le tapis.
Ils
hein.
mettent ça sous le tapis. On nous les a vendus. Hein. Pendant des années, on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez pouvoir bouquiner au volant, faire votre petite sieste. Enfin, bon, bref, ce genre de choses.
On en a quand même avalé des couleuvres.
Ah,
hein,
oui,
bah, Anthony,
évidemment.
Hein.
Et on les... Oui, absolument. Non, mais t'as raison. Non, mais il faut le dire. Faisons aussi un peu notre mea culpa parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été. Mais peut-être qu'eux, ils croyaient vraiment aussi à l'époque.
Je pense aussi.
Pris dans un élan d'enthousiasme, mais se sont rendus compte à un moment que c'était beaucoup plus compliqué que ça, pour des raisons de sécurité, pour des raisons, parce que la voiture autonome dans la neige, par exemple, c'est un peu compliqué de se gérer toute seule, pour des raisons de modèle économique aussi, c'est-à-dire que ça coûte très cher à développer.
Et la réglementation aussi.
La réglementation,
aussi
évidemment.
C'est ce gros problème qui, à mon avis, a fait fuir de nombreux constructeurs.
C'est le vrai problème aujourd'hui, comment on assure une voiture autonome ?
Exactement.
Qui est responsable quand il y a un accident ? On n'a pas encore résolu ce problème.
On n'a pas toutes les réponses.
Et je peux vous dire que à mon avis, c'est pas encore réglé hein, cette histoire-là.
Mais bien sûr, bien sûr. Et
parce qu'il y a des milliards en jeu.
Il y a des milliards en jeu, et puis c'est des voitures qui potentiellement coûteraient très très cher, et on sait pas qui les achèterait. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est pour que ça coûte plus cher qu'une Ferrari, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont acheter la voiture autonome. Donc est-ce que c'est intéressant
de ne pas acheter une Ferrari ? Bon, d'accord.
Moi, oui, évidemment. mais après, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent.
Moi, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens.
Mais non, évidemment. Non, mais alors, donc, c'est intéressant de voir que Apple, finalement, bah, eux, ils y vont, apparemment, ils y vont comme ça. Donc, ils imaginent une voiture avec en mode lounge, donc avec deux sièges, pas deux sièges à l'avant, deux sièges à l'arrière, mais des sièges qui se font face, un peu comme dans une diligence, un petit salon, avec des grands écrans un peu partout pour le divertissement. Donc, voilà ce qu'imagine Apple. Je trouve ça étonnant. Je trouve que c'est un pari qui est audacieux si, effectivement, cela s'avère voilà, une vraie piste explorée par Apple. Mais est-ce que c'est réaliste? Vraie question.
Alors Nico, est-ce que tu l'attends, cette voiture, en 2025? Il faut commencer à économiser, les amis. Hein, parce qu'à mon avis, oui, l'Apple Car, ça ne va pas être donné.
Moi, je revends une Ferrari. Hein.
C'est ça.
Pas de souci.
Et donc, 4 ans, ça nous fait 48 mois. J'ai calculé.
48 mois de préparation.
48 mois d'économie. Hein. Voilà, commencez à mettre de côté pour être prêt en 2025.
Je me pose énormément de questions sur l'Apple Car, et depuis longtemps, parce que c'est un projet dont on entend parler depuis plusieurs années, qui a souvent été repoussé. Et finalement, ce que nous apprend Mark Gurman avec cet article, c'est qu'Apple lui-même ne sait pas. Parce que OK, on parle d'une voiture complètement autonome, sans pédales, sans volant, mais on dit aussi, d'après Mark Gurman, que Apple travaille à un mode urgence qui permettrait au conducteur de reprendre le volant en cas d'urgence. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des prototypes qui auraient un volant et qui auraient des pédales. Donc, finalement, on revient au même problème qu'il y a 5-6 ans, quand les rumeurs sur le projet Titan sont apparues. Apple prépare quelque chose sur l'automobile, à un moment envisager une voiture, puis finalement avait abandonné une voiture, maintenant est de retour sur l'idée de faire une voiture. Ça, je pense que Mark Gurman a des bonnes informations. Il y a vraiment aujourd'hui un véhicule Apple en développement. Le problème, c'est que l'échéance 2025, elle va être dure à tenir. C'est très vite. Hein. On ne développe pas une voiture en 3 ans, en 3 ans et demi plutôt. On a évidemment tous les problèmes de régulation si on veut faire vraiment du purement autonome. Franchement, je ne sais pas trop vers quoi on va aller, si Apple va vraiment finir par concevoir cette voiture ou si le projet va de nouveau être abandonné. On en parlait en antenne avec François tout à l'heure. Moi, je me dis que ça aurait été tellement plus simple pour Apple il y a quelques années de racheter Tesla, de racheter un constructeur là-dessus, quitte à maintenir Tesla comme une activité à part, gérée par Elon Musk, indépendante, mais en étant le propriétaire et en mettant finalement ses technologies, ses services dedans.
On évoquait ça avec Emmanuel Torriano.
Que partir là-dessus, finalement, où le projet, certes, va peut-être donner quelque chose un jour, mais il semble tellement complexe. Et on voit bien qu'Apple, qui finalement a toujours été une entreprise qui a des idées au début et qui finalement arrive à les concrétiser dans le timing prévu, n'y arrive pas avec l'Apple Car, et je sais pas du tout où on va aller.
Non, c'est vrai, et d'autant qu'il faut qu'ils trouvent un partenaire industriel, hein, parce que le plan qui se dessine, c'est quand même que c'est pas eux qui construiraient la voiture.
Vraiment,
ils seraient une sorte de... Bah, en fait, comme ils font pour l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils designent la voiture. Exactement, ils conçoivent apparemment le processeur aussi.
En fait.
Apparemment, c'est ce que dit aussi Mark Gurman, il y a un processeur très puissant qui est en cours de réalisation.
Ah, si, ils mettent du M1 dedans.
Il parle en effet d'une puce Apple Silicon qui, d'un point de vue NPU, donc sur toutes les capacités neuronales, serait la plus avancée à ce jour. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance. J'ai aucun doute sur leur capacité.
Mais derrière, qui l'a construit? Parce qu'il faut trouver un partenaire industriel. Apparemment, il y avait eu des discussions avec Hyundai. Finalement, ça s'est pas fait. Pourtant, c'était allé assez loin. Il y avait des chiffres assez précis qui étaient sortis. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Faut s'entendre avec Apple
c'est
derrière.
Parce que les
constructeurs traditionnels veulent pas non plus être des simples sous-traitants d'Apple.
Et l'autre problème que j'ajouterai rapidement, c'est la question du prix. On ironisait dessus avec François il y a quelques instants. Apple aujourd'hui, tous leurs produits, certains ne seront pas d'accord, hein, mais c'est des produits, mine de rien, grand public. Ok, c'est cher, c'est du luxe, mais un Mac, même le plus cher, on peut se le payer dans certaines conditions, en économisant, pareil pour un iPhone. Là, avec une voiture comme l'Apple Car, Apple va complètement sortir de cette cible grand public luxe et aller vraiment sur du luxe et s'adresser à une toute petite clientèle, en tout cas une petite clientèle. Donc ça m'interroge aussi sur la stratégie de l'entreprise qui, finalement, il y a plein de personnes qui sont fans d'Apple qui vont se dire « bah, je peux pas l'acheter pas ».
Et c'est vrai que nous qui sommes passionnés par la tech et dont c'est le métier, c'est un grain à moudre incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Le jour où cette voiture sort, ce sera un truc qui va nous rendre... ça sera un gros, gros, gros événement quand
même. En même temps, moi j'ai l'impression aussi qu'Apple a besoin de ça. C'est-à-dire que vraiment, ces derniers temps... Ils ont du mal à nous faire rêver, quoi. On voit bien que c'est iPhone après iPhone après iPhone, et c'est des super produits, il n'y a pas de souci, mais on a envie du petit truc en plus, et là, ça fait longtemps quand même.
Oui, la la locomotive de l'innovation et on ne sait pas trop où elle est. Quoi.
C'est ça. Et là, ce serait quand même un effet waouh suffisamment important pour que Apple nous fasse rêver de nouveau. Et puis, pour Apple, hein, y a des analystes qui ont fait les calculs. Si Apple arrivait à conquérir 2% du marché automobile, ça générerait autant de revenus que les ventes d'iPhone. Et on sait bien que la stratégie de Tim Cook, c'est d'être moins dépendant de l'iPhone. Donc, on voit bien à quel point ça peut être intéressant pour eux. Mais Tim Cook n'a toujours pas prononcé le mot voiture dans ses keynotes. Donc, voilà,
Il a dit qu'il s'y intéressait, mais à chaque fois qu'on lui pose la question, il dit qu'il s'y intéresse. Donc,
ils ont débauché, rappelons-le, énormément d'ingénieurs venant d'autres automobiles, de Tesla.
Il est certain qu'il se passe quelque chose.
Quelque chose se prépare. Ils ont des tests avec des voitures qu'ils ont équipées de capteurs pour apprendre justement à créer des voitures autonomes qui se baladent un peu dans la Silicon Valley. Donc il y a vraiment le projet. Enfin, c'est pas juste une rumeur inventée par des
journalistes. Non, c'est clair.
Il y a quelque chose. C'est
Là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que vous dites qu'ils sont peut-être en retard, mais moi je suis pas sûr parce que est-ce que technologiquement la voiture autonome de niveau 5 est prête? Je pense pas. Deux, la réglementation n'est pas prête. D'accord ? Elle le sera peut-être en 2025. Ouais. Donc finalement, les indicateurs et l'alignement des planètes, c'est pas maintenant. Si Apple veut sortir une voiture vraiment révolutionnaire, disruptive, comme on dit, j'étais ce mot, mais là, c'est vrai qu'il... c'est pas maintenant qu'il faut la sortir. C'est dans 3, 4 ans, 5 ans.
Moi, je pense que technologiquement, ils peuvent pas être aussi avancés que des Google, même Uber, etc., dont on voit les voitures, c'est-à-dire se balader aux États-Unis, il y a des villes entières où il y a des voitures Waymo qui se baladent en mode autonome,
mais qui
etc.
te dit qu'il n'y a pas des Apple Cars qui se baladent déjà? On ne sait pas.
Ça saurait quand même, franchement.
C'est peut-être des voitures déguisées, c'est peut-être des Hyundai, c'est peut-être des Toyota.
À mon avis,
j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est une obligation légale aux États-Unis de fournir justement le nombre de kilomètres parcourus par les voitures autonomes au DMV, donc à l'autorité qui gère la circulation et tout ça. Et je crois que le kilométrage d'Apple est largement inférieur quand même à celui de ses concurrents. Et c'est comme ça quand même que l'intelligence artificielle s'améliore
s'améliore. La bataille Tesla Apple, si un jour Apple se lance dans l'automobile, ça va être chaud bouillant.
Ça va être le rival principal.
Ça va être top.
Et faut rappeler pour ceux qui nous regardent en télé que toutes les images qu'on voit là, c'est pas des images officielles.
Alors, moi, je voulais conclure là-dessus, d'ailleurs, parce que Jean-David et Pierre, que nous adorons, franchement, ce sont des génies de la réalisation télé. Vous le savez, ils réalisent toutes les émissions de 01 TV, ils sont top. Mais depuis de nombreux mois, quand on évoque en fait l'Apple Car, ils nous ressortent ces images qui sont mais surréalistes, hein, Nico. On en parlait tout à l'heure.
Pour ceux qui nous écoutent, on va préciser. Voilà. On voit par exemple une voiture être soulevée par une sorte de grue et connectée avec un port Lightning sous le capot.
Avec des roues en forme de boule.
Je pense que le designer qui a fabriqué ces images a surtout voulu faire rire et imaginer des concepts loufoques.
Avec un énorme port USB-C derrière.
C'est génial, puisqu'on diffuse ça assez souvent.
Voilà. Petite parenthèse qu'on referme. Toujours dans l'actualité, Apple, cette fois-ci, beaucoup moins souriante. C'est Apple qui porte plainte contre NSO, Nicolas, qui est cette entreprise qui avait fait couler énormément d'encre, on s'en souvient, en plein mois d'août, dans la torpeur de notre été 2021, il y avait ce logiciel Pegasus qui a permis en fait de récolter des données de milliers de téléphones, dont des iPhones, de personnalités diverses, hein, dans le showbiz, politique aussi, puisque notre président Emmanuel Macron, semble-t-il, aurait été aussi visé par cette histoire-là. Et visiblement, c'est resté au travers de la gorge d'Apple, cette histoire-là.
Oui, on parle d'Apple, mais ça concerne finalement toute l'industrie. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'Apple a annoncé son intention de porter plainte contre NSO Group, qui est une entreprise israélienne à l'origine de spyware, donc de logiciels de cyberespionnage.
Apple... A noter que les Israéliens sont excellents dans ce domaine-là. Ouais. Vous savez que c'est sans doute les seuls qui arrivent à craquer aujourd'hui des iPhones et des téléphones avec des systèmes d'encryptage. C'est fou.
Ils sont très forts là-dessus. Ce que reproche Apple plus directement ou plus indirectement, c'est une question de perspective, c'est la collaboration de certains États qui finalement se tirent des balles dans le pied entre eux pour justement permettre le piratage massif d'appareils qui sont censés être sécurisés. Et à travers cette plainte contre NSO, Apple justement demande aux États d'arrêter justement le financement de ces entreprises, d'arrêter de collaborer avec ces entreprises et demande un bannissement de NSO Group aux États-Unis, ce qui interdirait la vente des logiciels Pegasus là-bas. Évidemment, Apple n'est pas le seul qui est embêté par NSO. Maintenant, c'est aujourd'hui le plus gros acteur à avoir attaqué NSO en justice. En plus de tout ça, Apple... va financer des groupes de cyber de chercheurs en cybersécurité pour les aider justement à trouver plus facilement les failles, à les identifier et à les boucher. Et j'aimerais rajouter aussi quelque chose, c'est que au-delà de cette plainte qui est réalisé pour des bonnes raisons, il y a aussi tout un intérêt de communication pour Apple qui, on vous le rappelle, avec ce qui se passe autour de l'App Store là, et l'éventuelle fin de ce monopole, Apple a peur justement au niveau sideloading, l'autorisation d'installer des applications en dehors de l'App Store, et rappelle en permanence que les iPhones sont sécurisés. Donc si Apple dit que les iPhones sont sécurisés mais laisse Pegasus exister, c'est pas cohérent. Ouais. Donc il leur faut prouver qu'ils luttent contre les pirates.
Ouais. Moi j'ai du mal à comprendre qu'ils attaquent NSO en particulier, c'est-à-dire qu'ils attaquent les États qui utilisent des outils d'NSO pour espionner telle et telle personne, ok. NSO, enfin à la limite, ils font leur boulot, alors c'est moralement tout à fait condamnable.
Tout à fait.
Mais je veux dire, Apple.
Là, ils s'attaquent à la source du problème,
ouais,
en fait.
Enfin, qui corrigent leurs exploits, et puis c'est tout ce qu'ils ont à faire, tu vois. Enfin, je veux dire, je trouve ça.
Je pense que
je comprends la logique.
Fixés, je pense.
Voilà, c'est ça.
En plus, ils communiquent sur nous, il y a une enclave numérique, on a des puces neuronales qui protègent votre téléphone, etc. Et paf.
Exactement.
Je veux dire, il suffit d'envoyer un e-message pour qu'on puisse récolter toutes les données de votre téléphone. Quoi. Je pense qu'ils ont été vexés.
Ils ont été probablement vexés et effectivement, je pense aussi qu'il y a un enjeu de communication parce que Apple, ça a toujours été quand même l'un de leurs arguments marketing, c'est avec nous, vous êtes safe, il n'y a aucun problème de sécurité, en tout cas beaucoup moins qu'avec d'autres systèmes d'exploitation. Et là, on se rend compte que en fait, ils ne sont pas à l'abri des exploits comme les autres, les autres, pas plus, pas moins que les autres, mais en tout cas, pour moi, la bonne démarche, c'est effectivement de financer des groupes de chercheurs, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de failles. Attaquer en justice NSO, qu'est-ce que ça va donner ? Pas tellement d'intérêt.
Dans l'actualité aussi, on va parler un peu de métaverse. Je suis sûr que ça vous manquait. Vraiment, vraiment, il y a deux choses qui nous manquent en ce moment, c'est le soleil et le métaverse. Ça tombe bien parce que dans le métaverse, vous pouvez retrouver du soleil. Il fait toujours beau.
C'est ça qui est bien.
C'est ça qui est cool. Il fait toujours beau.
Ça, on l'a pas encore. On n'a pas trouvé une solution pour qu'il fasse chaud dans le métaverse.
Mais on voit que tout le monde s'empare de ce concept. Rappelons-le, le métaverse. Anthony, Nicolas, c'est le fait de se créer une espèce de seconde vie totalement virtuelle avec un avatar dans des univers qui sont complètement inventés. Ça peut être du jeu vidéo, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine, dans divers domaines. Et donc le jeu vidéo, bien sûr, un tapis à dérouler là-dedans. Et Niantic, par exemple, a annoncé vouloir bâtir un métaverse du monde réel basé sur la réalité augmentée, Anthony.
C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que, c'est vrai qu'on parle souvent de métaverse, mais là, on voit qu'il y a plusieurs écoles qui sont en train de s'opposer, plusieurs types de métaverse qui sont en train de voir le jour. On a beaucoup parlé de la vision de Facebook, parce que c'est eux qui ont quand même pas mal bombardé sur le sujet, où en gros, Facebook, c'est on va avoir cette deuxième vie virtuelle qui va passer notamment par un casque de réalité virtuelle et qui va permettre de s'immerger complètement et d'être complètement isolé du reste du monde réel. Et en fait, Niantic, ils prennent la parole en disant, pour nous, la vision de Facebook, elle est cauchemardesque. Et nous, on veut inventer un autre métaverse, un autre type de métaverse, mais qui serait basé sur le monde réel en utilisant la réalité augmentée. Niantic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Pokémon Go. Vous voyez bien l'immense succès, évidemment, l'une des applications les plus rentables de l'histoire. Et en gros, c'est un peu ça. Le Pokémon Go, ça va être un peu le brouillon de leur métaverse. C'est-à-dire qu'ils imaginent un monde où on pourrait se balader dans la rue, pointer son smartphone dans un premier temps, mais à terme avec simplement des lunettes de réalité augmentée, et ils travaillent sur le sujet avec Qualcomm, et voir des éléments numériques qui vont venir se superposer et qui vont en fait créer une sorte de deuxième monde virtuel qui va se superposer au premier.
Le style HoloLens de Microsoft, par exemple.
Exactement, c'est ça. Et alors, le truc, c'est que tu peux imaginer ça dans toutes sortes d'univers. C'était le cas avec Pokémon, mais tu peux imaginer un univers Star Wars, tu peux imaginer des applications pour le travail, tu peux imaginer, enfin, toutes sortes de choses. Mais la différence avec la vision de Facebook, c'est que là, tu as quand même un lien avec la réalité, tu vois quand même le monde réel. Et leur idée, c'est que tu puisses te promener dans la rue, marcher, rencontrer des gens, et donc tu as ce côté un peu plus social, on va dire, alors que le métaverse version Facebook a plutôt cette vision un peu désociabilisante, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas qui va t'isoler du monde réel. En tout cas, c'est l'idée qu'ils veulent mettre en avant. Je trouve que c'est intéressant, il faudra voir comment ça se matérialise, mais l'idée est intéressante.
Voilà, Niantic donc, mais c'est pas terminé, parce qu'il y a d'autres projets issus aussi de grands développeurs, comme par exemple Epic.
Oui, le mot métaverse, il est à la mode. Hein. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais est-ce qu'on ne l'utilise pas finalement pour des choses qui ne sont pas du tout le métaverse ? Peut-être. En l'occurrence, il y a un nouvel exemple en date, c'est Epic Games, donc le créateur de Fortnite, qui a racheté cette semaine une entreprise qui a été fondée en 1995, qui s'appelle Harmonix, et qui est à l'origine de jeux comme Guitar Hero, Rock Band, des jeux musicaux.
Vous vous souvenez de cette époque-là ?
Ah oui, on achetait les guitares, moi, connectait à la PS2.
Moi, j'étais un énorme joueur, je les ai tous. Moi, les Guitar Hero, très gros. Je jouais même en compétition et tout, parce qu'il y a des championnats du monde de Guitar Hero et tout. Ah, j'étais un très très gros fan, moi.
Et c'est dingue parce que cette histoire-là, petite parenthèse, ça a disparu assez vite.
Mais carrément.
Qu'il y a eu comme une espèce de tsunami de ce type de jeu avec des instruments, etc. Et puis en quelques mois,
C'est tombé en désuétude tout à coup.
C'est dingue.
Très étonnant.
Moi, j'ai l'impression que c'est des jeux comme Just Dance qui ont complètement piqué la vedette et qui ont récupéré un petit peu ce créneau-là musical et qui finalement n'avaient pas besoin d'accessoires, qui étaient plus simples.
Et qui ont peut-être pas su évoluer. C'est-à-dire que finalement, on restait dans une thématique qui était difficilement évoluable en quelque sorte.
Et puis après, en plus les DLC, enfin les morceaux que tu pouvais acheter, ça coûtait une fortune. Franchement, ils se faisaient sur le modèle économique. Alors je sais plus, tu payais 3 ou 4 euros pour
télécharger un morceau. Aussi,
tu achetais un morceau.
Il fallait.
Mais c'est beaucoup plus cher que de les acheter sur iTunes, par exemple.
C'est vrai.
Ce qui était quand même. Enfin bon, je pense qu'ils sont un peu plantés. C'est dommage parce que vraiment, les jeux étaient formidables.
Ça n'existe plus du tout maintenant, tous ces trucs-là, Guitar Hero, etc.
Alors, Rock Band existe encore. En fait, je sais qu'ils ont fondé Guitar Hero, mais qu'ils n'étaient pas, par exemple, à l'origine des derniers Guitar Hero. Donc entre temps, ils ont récupéré surtout la licence Rock Band qui revient un peu au même, et Rock Band existe encore, et malgré ce rachat par Epic Games, ils promettent de continuer à mettre à jour Rock Band. Maintenant, je pense que le succès déjà, il est moindre qu'auparavant. Et surtout, après, il faut aussi préciser que cette entreprise Harmonix, elle a subi plusieurs rachats ces dernières années. Elle est assez critiquée dans le monde du jeu vidéo comme étant une entreprise très mal gérée, qui a complètement raté certaines coches. Et c'est aussi peut-être ce qui explique l'effondrement de jeux comme Guitar Hero, Rock Band. Ouais. C'est que finalement, il n'y a jamais eu de vraie gestion derrière. Quand ils ont eu des grosses offres de rachat, ils les ont refusées. Ouais. Ils ont accepté des petites offres qui finalement n'étaient pas à la hauteur de leurs ambitions. Et c'est ce qui explique aussi cet échec-là.
Et donc là, on retrouverait cet univers musical dans notre fameux métaverse.
Exactement, le métaverse. C'est la première. je pense que c'est la première fois qu'Epic Games qualifie Fortnite de métaverse dans un communiqué de presse. Ouais. Maintenant, Fortnite n'est plus un jeu vidéo, c'est un métaverse. Finalement, c'est pas forcément la pire comparaison pour le coup, parce que Fortnite, rappelez-vous, ils ont déjà organisé des concerts en direct. Le concert Travis Scott, c'est peut-être celui qui était le plus marquant, où tous les joueurs qui étaient connectés en même temps voyaient le concert au même endroit, ce qui finalement est assez proche du concept du métaverse. On a un vrai monde virtuel où il se passe des choses pour tout le monde. Donc, ils n'ont pas volé ce terme métaverse. Mm-hmm. Et en rachetant Harmonix, Epic Games dit préparer les futurs voyages musicaux de Fortnite. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va permettre, par exemple, à n'importe quel joueur de Fortnite, avec une guitare virtuelle, de jouer des morceaux que les autres pourront voir. Est-ce que ça va être juste pour financer les futures expériences avec des vrais artistes ? En tout cas, il y a l'air d'avoir des vrais projets dans l'esprit d'Epic Games là-dessus. Ça passera par Harmonix, qui est un expert des jeux vidéo musicaux. À voir comment ça va se concrétiser. À voir aussi si on aura des suites pour les jeux comme Rock Band. Pas sûr, hein, ils ont l'air de continuer à développer les DLC existants, mais ils n'ont pas l'air de développer des nouvelles choses. Donc le futur, ça devrait être Fortnite seulement pour Harmonix.
C'est vrai que Fortnite, ça fait longtemps. Alors, t'as raison, je crois qu'ils n'avaient pas utilisé le mot métaverse jusque-là, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'ils ont cette ambition qui tend vers le métaverse. C'est-à-dire qu'il y a les expérimentations dans le domaine de la musique, également dans le domaine du cinéma, où par exemple, je crois que c'était le dernier film de Christopher Nolan, où la bande-annonce avait été diffusée en direct dans Fortnite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très étonnant. C'est-à-dire que tu as ton avatar et tu vas dans le jeu, et donc dans ton écran, tu vois un écran qui diffuse la bande-annonce du dernier Nolan. Et tu as vraiment ce côté mise en abîme qui est clairement métaverse. En gros, l'idée, c'est bien au-delà du jeu vidéo, d'avoir un univers où tu as ton avatar et il peut faire toutes sortes de choses. Il peut socialiser avec les gens, il peut regarder des films, il peut écouter des concerts, etc. Donc ils sont vraiment dans cette optique-là. Et effectivement, avec les artistes, ils ont signé des. Alors, il y avait Travis Scott, il y a eu Ariana Grande, Aya Nakamura aussi, pour citer les Français. Elle a été intégrée aussi, donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et effectivement, alors moi, c'est cette notion de voyage musical là, qui est un peu floue pour l'instant. C'est ça, moi, c'est pareil. Je me suis imaginé tout de suite avec ma guitare dans la main et puis un concert virtuel avec des copains, ou peut-être pourquoi pas jouer avec des artistes professionnels. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios possibles. En tout cas, c'est intéressant, effectivement, ce qu'ils sont en train de mettre en place.
Alors, juste, j'ai une petite annonce à vous faire parce que, avec mon camarade Jérôme Colombin, que vous connaissez, qui est mon camarade sur 01 TV, on a un podcast mensuel qui s'appelle Chez Jérôme et François et qu'on fait comme à la maison, on discute de tech, etc. Je vous invite d'ailleurs, si vous aimez la tech, à découvrir ce podcast. Et pour tout vous dire, cet après-midi, on va enregistrer notre numéro de fin novembre dans Horizon Workrooms de Facebook.
Dans le métaverse.
Dans le métaverse. Et c'est Jérôme qui a eu cette idée-là. Et je trouve que, alors, on a fait des tests. C'est hallucinant. Moi, je n'avais jamais testé. J'adore le Quest 2. Je jouais de temps en temps, etc. Mais là, on s'est mis dans la configuration d'une salle de travail et de créer son avatar et de discuter comme ça entre nous. La qualité du son, elle est impressionnante. Ouais. Vous avez même plus besoin de manette parce que ce sont vos mains qui sont détectées par les capteurs du casque, ce qui fait que vous en fait, en pitchant, en pinçant les choses, vous arrivez à lancer des applis, etc. Vous pouvez connecter votre PC et donc voir l'écran de votre PC en temps réel, le faire projeter, faire de la visio. Par exemple, Anthony, toi, t'as pas de masque, c'est pas grave, tu rejoins en fait notre salle de meeting, on va te voir en visio, et puis toi, tu vas nous voir avec des avatars, et donc on va tester l'enregistrement de notre podcast dans le métaverse.
Pas mal.
Voilà, on
pas
va voir ce que ça mal. Donne.
Et ça te rend malade, toi, les casques ou pas? Parce que moi, c'est ça qui me fait peur, c'est genre, quand ils nous parlent de workrooms, moi, je m'imagine la journée de travail, 8 heures avec le casque sur la tête, je sais que moi, je pourrais pas, en vrai.
Tu as raison, le Quest 2, j'ai joué plusieurs heures, je n'ai jamais été malade.
Ah ouais?
Jamais. Ah. Je trouve qu'ils ont dû, alors je sais pas, peut-être corriger les défauts de synchronisation qui font qu'au bout d'un moment, tu avais le mal de mer. Je suis pas malade. Après, je suis d'accord avec toi. On peut pas faire 8 heures de Teams avec ce truc-là sur la tête.
Pour une réunion, ça passe. Mais
pour une réunion de là, tu vois, on a fait un test sur une petite heure. Ça passait, mais vraiment très, très bien. Et le résultat est Teams. Et je vous assure, c'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant parce que j'avais l'impression d'avoir Jérôme à côté de moi alors qu'il était chez lui, etc. Et donc là, les frontières sont complètement éclatées et on peut imaginer un monde un peu parallèle et vraiment fascinant. Je vous invite à le tester.
Faut qu'on se fasse un de quoi je me mêle dans le métavers, ça.
Mais moi, tu sais quoi
absolument partant pour.
Attends.
Eh ben on va y penser.
Je reste. Enfin bon, c'est qu'un avis subjectif assez opposé pour des raisons éthiques et morales à cette idée de métavers et de réalité virtuelle. Je pense je pense pas qu'on devrait s'enfermer dans un monde complètement virtuel avec une coupure complète du réel. C'est vrai que l'approche de Nuit Antique est limite plus intéressante mais elle est plus proche du jeu vidéo que du métaverse pour le coup, selon moi. Mais
j'ai discuté avec il y a deux jours avec un ancien de Google, donc qui lui a connu de près justement le fait de rendre les gens addicts à des produits technologiques, parce que voilà, c'est aussi un petit peu
ça,
et lui me disait que pour lui le métaverse c'était la plus grande menace de l'histoire de la technologie quasiment.
Enfin, je suis plutôt d'accord avec ça,
vraiment,
après j'ai pas le recul nécessaire
avec l'idée, tu sais, comme dans Ready Player One de Steven Spielberg, où en gros tu as ta vie réelle qui est médiocre parce que machin, crise économique, la vie est un peu nulle, tout le monde déprime et tout, et le soir quand tu rentres à la maison, tu mets ton casque, tu mets ta combinaison haptique et tu te retrouves dans un monde rêvé qui est beaucoup plus intéressant, et ta vie virtuelle est vachement mieux que ta vie réelle.
Et dans lequel tu dépenses ton argent réel.
Exactement.
Il y a énormément de problèmes là-dedans, et je suis pas convaincu que ce soit les meilleures idées du monde. Pour le jeu vidéo, encore une fois, je suis super fan de la réalité virtuelle. Pour le reste, je pense qu'on fait peut-être quelques erreurs, mais bon, on verra dans quelques années.
Après, je pense que nous, dans notre métier, nous oblige à tester ce type de
choses. Ah, mais évidemment, je suis le premier à avoir
testé. Et voilà, je pense que, la culture, notre culture fera si on y adhère ou pas, mais c'est intéressant de creuser ce type de choses.
C'est clair, absolument.
On parlait de musique il y a un instant, on va y revenir, cette fois-ci dans le monde réel, pour parler de Spotify qui a plié, en fait, plié devant une artiste, et pas n'importe quel artiste, qui vient de sortir son nouvel album.
Oui, c'est assez marrant comme information, finalement. C'est Spotify qui a changé une fonction majeure de son application, non pas parce que les utilisateurs le demandent, mais parce que Adèle le demande. Adèle, c'est pas n'importe qui. Moi, je pense que si Adèle me demande quelque chose, je vais dire OK. on peut changer des choses dans l'émission, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, c'est une fonction qui est liée à la lecture des albums.
Passe mon album dans l'ordre, Nicolas, s'il te plaît. Si elle te demande
si Anthony. Mais même toi, Anthony, tu me demandes de jouer ton album dans l'ordre, je joue dans l'ordre, il n'y a aucun problème.
C'est pas difficile.
On le voit ici, le bouton, si vous êtes en image, vous le voyez avec nous, sinon je vais vous le décrire. Sur Spotify, le bouton lecture, généralement, il est couplé à un bouton lecture aléatoire. Ce qui veut dire que quand vous lancez une playlist, quand vous lancez la lecture d'un artiste ou quand vous lancez un album, eh bien, ça va jouer les morceaux dans un ordre aléatoire. Et ce n'est pas finalement la vision des artistes. Et c'est ce qu'a dit Adele à Spotify, c'est que quand elle a écrit son nouvel album 30, elle l'a écrit dans un ordre précis, ça raconte une histoire, et que ce bouton aléatoire, finalement, eh bien, il n'est pas honnête pour les gens qui vont écouter l'album. Et Spotify a dit, vous savez quoi, vous avez raison. Et ils ont décidé, uniquement sur les pages des albums, de retirer le bouton aléatoire. Maintenant, quand on appuiera sur le bouton vert, ça va lire les morceaux dans l'ordre. Bien sûr, si vous souhaitez faire de l'aléatoire, vous avez toujours la possibilité de le faire. C'est pas non plus interdit.
Mais le shuffle, c'était l'option par défaut, en fait ?
C'était l'option par défaut de Spotify. Mais je suis étonné, moi, je suis pas utilisateur de Spotify. Ouais, et pour le coup, j'utilisais pas mal de services concurrents. Et aucun ne propose le shuffle par défaut. Donc,
Moi, j'utilise Spotify, mais j'écoute jamais des albums entier. Donc, j'écoute que les recommandations et tout ça. Donc, j'avais pas compris ça, effectivement.
En fait, si on clique sur le premier morceau, ça va les lire dans l'ordre. Si on clique sur le bouton vert, ça fait aléatoire. Mais du coup, le bouton vert qui est le plus gros, c'est celui sur lequel on a envie de cliquer. Mais c'est vrai que ce comportement est très étonnant parce qu'en effet, j'ai plein d'albums en tête qui, en effet, se lisent chronologiquement avec une histoire, une début, une fin.
Donc,
qu'est-ce qu'un mode aléatoire foutait sur Spotify ?
C'est étonnant.
T'as des vieux albums, des Pink Floyd ou des Beatles. Qui ont été conçus comme des œuvres qui s'enchaînent, et shuffle, c'est une catastrophe.
C'est vrai.
Enfin, pour eux, en tout cas, pour le côté comme tu disais narratif, c'est assez intéressant. Mais on voit qu'Adèle, qui est une artiste majeure, qui aujourd'hui draine des millions et des millions de fans, avait fait déjà plier Spotify. Hein, on s'en souvient. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son précédent album qui était sorti il y a 5 ans.
C'était 25, c'était assez facile avec elle.
C'était 25, là c'est 30.
C'est
le premier single de cet album, c'était Hello. Il était sur Spotify, et quand l'album était sorti, il n'était pas sur Spotify. Parce que Adèle avait dit, je ne gagne pas assez d'argent avec vous, je sors le single, si mes fans veulent écouter l'album, il faut qu'ils achètent le CD.
Ah oui.
Ça, c'était il y a 5 ans, donc on voit que depuis, je pense qu'elle a dû renégocier peut-être les royalties avec Spotify, mais elle avait imposé à Spotify un seul titre de son album, et au bout de quelques mois, après que la plupart de son fond de fans aient acheté son CD, eh bien là, elle avait mis l'album sur Spotify.
C'est intéressant de voir que ces artistes...
Spotify et tous les autres, d'ailleurs.
C'est ça, mais ces artistes surpuissants, parce que c'est pas n'importe qui, sont capables de faire plier des grandes plateformes. Parce que c'était le cas aussi de Taylor Swift. Hein, qui avait fait plier Apple Music à l'époque et qui avait forcé Apple Music à revoir sa politique tarifaire pour les artistes. Donc ça, c'était quand même pas rien. À ne pas reverser les droits d'auteur pendant les 3 mois gratuits pour les abonnés d'Apple Music. C'était ça l'histoire. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir que finalement ces grandes plateformes, alors Spotify est plus petit qu'Apple évidemment, mais qui sont, dit-on, plus puissantes que des États, on peut quand même, des êtres humains uniques, même s'ils sont un peu plus puissants que la moyenne, sont capables de les faire plier aussi. Voilà, donc,
incroyable.
C'est une bonne chose.
Et oui, Adèle qui cartonne avec son nouveau CD, bien évidemment, qui fait partie des plus grosses ventes de CD de l'année. Je crois que c'est déjà, alors qu'il est sorti, la plus grosse vente de l'année 2021. Messieurs, tiens, puisqu'on est dans le son, on va en parler dans quelques instants du son. Du son avec des marques qui... alors peut-être ne vous disent rien, Denon, Bowers & Wilkins, Marantz, ça te dit quelque chose, toi Nico, qui est le plus jeune d'entre nous ?
Quelques-unes de ce que tu as cité, pas toutes. Bowers & Wilkins, oui, mais par exemple les autres.
Denon, tu connais pas ?
Denon, je ne connais pas.
C'est dingue.
Denon, je connaissais pas non plus moi.
Tu connais pas ?
Non.
C'est quand même une marque de hi-fi qui, il y a quelques années, était vraiment référencée comme l'une des meilleures marques japonaises, bien évidemment, avec ils faisaient des mini-chan hi-fi, tu sais, avec de très beaux haut-parleurs, etc., et une super qualité sonore. Marantz, c'était une marque qui appartenait à Panasonic. Panasonic s'en s'est séparé aussi, et qui était aussi dans le haut de gamme. Et il semblerait que ces marques, on va dire, haut de gamme de hi-fi reviennent un peu sur le devant de la scène. On en parlera avec mon invité. Mais alors, toi, tu es venu, et ça sera pour conclure, avec une enceinte un peu étonnante.
Ouais, absolument.
Anthony, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Alors, écoute, je vais...
On dirait une enceinte un peu hypnotique. J'ai l'impression d'être un peu dans Fantomas. Et en la regardant, je vais après obéir à tous tes ordres.
J'allais dire, on dirait un chauffe-plat. Moi, j'ai envie de mettre ma casserole dessus.
Un peu. C'est vrai.
C'est une enceinte plaque induction.
Ah, mais oui, mais elle est double usage. C'est pas mal, franchement. Non, c'est une enceinte unidirectionnelle et je dois dire que c'est assez étonnant.
C'est absolument impressionnant.
Alors, je vais le décrire parce que pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais en gros, le principe, c'est qu'on va pouvoir viser une personne avec du son.
Alors, juste, je te coupe deux secondes parce que là. tu fais ton enceinte, donc c'est un peu comme un jet de lumière en quelque sorte.
Exactement.
On est d'accord,
comme une lampe de poche en fait.
Comme une lampe de poche. Voilà. Là, le son part, rebondit sur l'un des écrans du studio de Quoi Je Mail et me revient dans l'oreille.
Exactement, c'est
mais
ça.
Mais c'est incroyable, c'est très fait ricocher.
Ouais. Et tu sais. C'est... exactement d'où il vient et où
mais,
il va.
Mais c'est troublant.
C'est troublant, c'est troublant.
Ce qui est très étonnant, c'est que là, par exemple, il est en face de moi, j'ai pas du tout l'impression que le son vient d'une enceinte, j'ai l'impression que ça vient de mon esprit.
Mais et oui.
C'est ça qui est super. Ça me fait un peu penser à la conduction osseuse, c'est que on n'a pas l'impression que le son rentre dans les oreilles, c'est extrêmement
mais là,
troublant.
Mais là, de le faire devant.
Mais Nico, on est dans le métaverse à cause de toi.
Là, on est dans le métaverse.
Alors, je suis fou, je suis en train d'écouter du YouTube comme donc ça.
Il y a du son, hop.
Et est-ce et qu'on l'entend dans le micro ? Je ne sais pas si ça marche aussi.
Je pense que oui. Ceux qui nous écoutent vont nous le dire dans les commentaires. Mais normalement, ça doit... Voilà. Là, il y a du son. Hop, là, je tourne l'enceinte.
C'est
et là,
dingue.
Y a plus de son. C'est assez étonnant. Alors, vous aurez reconnu, au passage, l'album de U2.
Il a réussi quand même un combo gagnant. Anthony nous a ramené un iPhone 5C avec l'album de U2 offert par Apple. Franchement, retour en arrière.
En 2014.
Mais attends, moi, je suis très rétro, moi, comme garçon.
Bah,
non, mais je vous explique pourquoi en deux secondes. Hein, mais c'est en fait parce que l'enceinte se connecte à un port jack et c'est le seul appareil avec un port jack que j'avais chez moi, l'iPhone 5C. Et sur l'iPhone 5C, qu'est-ce que j'avais comme musique? J'avais l'album de YouTube qui était donné avec, évidemment.
Donc, alors, on me dit non, qu'on entend, hein, ça marche dans les micros, c'est top.
Vous comprenez le principe, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez être, je sais pas, dans le canapé, vous êtes assis, vous regardez votre série préférée et votre conjointe ou votre conjoint qui est assis à 10 cm de vous, qui est en train de lire son bouquin, n'entend pas. En fait, comme si vous portiez un casque finalement, alors que vous n'avez pas de casque.
Et en fait, on est dans une bulle en quelque sorte de son.
On est dans une bulle de son.
Qui vous vise.
C'est exactement ça. Tu es visé. C'est une sorte de canon directionnel, un canon sonore, quoi, si on peut dire. Et en fait, les applications, c'est une marque qui s'appelle Acoustic Arts. C'est des Français. Il y a vraiment une excellence française dans
tu
le domaine
que
du son.
Tu sais, j'ai vu ça au CES il y a quelques années. Peut-être que toi aussi, tu l'as vu.
Ouais, absolument.
C'est un concept qui existe depuis quelques temps.
Ah bah non, j'avais du Daft Punk aussi, il n'y avait pas que YouTube.
Ouais, c'est pas mal, je préfère Daft Punk.
Mais... et le récent de Daft Punk.
Ah bah non, mais encore une fois, on reste dans la thématique nostalgie, attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, effectivement...
Ça sert à quoi, en fait?
Alors, en fait, là, ils le commercialisent, eux, plutôt à des entreprises. Alors, ça va être, par exemple, tu es au supermarché, tu passes... à un endroit, on va t'envoyer de la pub, mais qui va arriver directement dans tes oreilles pour une promotion en particulier.
Encore une idée géniale.
Non mais, attends, je te dis comment ils le vendent. Après, je dis pas que c'est formidable de ce point de vue-là. Non, alors un truc.
Mais tu sais qu'il y en a une dans le couloir de l'allée des studios de chez nous, chez Altice.
Ouais, c'est vrai.
Parce que, juste en quelques secondes, on a toute une allée de studios avec plein de studios télé-radio, et évidemment, il y a des gens, des invités qui attendent, etc. Et en fait, il y a une télé où on diffuse l'un de nos programmes. Et il faut être assis pile au bon endroit pour entendre en fait le son de la télé.
C'est vrai, j'avais fait gaffe.
Ça fonctionne assez bien. Et alors non, tu vas pouvoir utiliser par exemple dans un musée, même chose, où tu vas avoir l'explication de l'œuvre qui te vient directement à toi, sans embêter entre guillemets ou dans la voiture. On peut aussi imaginer que chacun puisse avoir son ambiance sonore.
C'est du son discret.
C'est du son discret. Et moi je pensais aussi à ceux qui se réveillent pas à la même heure que leur conjoint. Tu intègres ça dans des réveils.
Ouais.
Et donc le réveil va viser la personne dans le lit et pas celle qui est à côté. Enfin, voilà, on peut imaginer plein d'applications pour. Alors, ils vendent ça, c'est autour de 800 euros. 800 euros, c'est pas donné.
C'est pas donné. Il y a l'iPhone 5C avec ou pas?
Et l'iPhone 5C est fourni avec, évidemment. Non, pas du tout. Mais il était pas mal. Et moi, tu vois, parce qu'il était tout petit. Et moi, j'en reviens à ça, quoi, maintenant. Là, tu vois, pour aller courir et tout, je me dis que c'est pas mal.
Donc, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. On l'a beaucoup critiqué au début, mais là, il est plutôt joli.
Plutôt joli,
ce téléphone.
Messieurs, merci.
Merci François.
Voilà,
merci
un bon cœur de la presse IT. Merci Anthony, Anthony Morel, BFM Business, RMC, et Nicolas.
Alors, on s'ambiance sur Daft Punk là, c'est
voilà,
pas mal.
On s'ambiance sur Daft Punk avec son enceinte ciblée.
C'est ça.
Vous restez avec nous, on va parler de son dans un instant. Du son de meilleure qualité que ton enceinte quand même.
C'est vrai.
Oui. Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, on en parle avec mon invité. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
De quoi je me mêle sur tous vos écrans, sur l'appli RMC BFM Play, bien évidemment, en audio, en vidéo, sur les applis RMC BFM TV, BFM Business et 01net, et sur YouTube aussi. Peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur YouTube, merci d'être là. On va maintenant évoquer des marques mythiques dans le domaine du son, de la hi-fi. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne les connaissent peut-être pas, mais les plus anciens, sans doute, Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, des marques qui ont bercé en fait les oreilles les plus aguerries, on va dire, il y a quelques années. Ces marques qui étaient un peu parties en désuétude, mais qui reviennent grâce en fait à une marque qui s'appelle Sound United et que l'on va découvrir maintenant avec mon invité Yann Guézy. Bonjour Yann.
Bonjour.
Vous êtes le responsable produit chez Sound United, qu'on connaît très peu finalement, et j'ai voulu vous recevoir parce que en fait vous communiquez actuellement sur Bowers, sur Marantz aussi, sur Denon. Qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que c'est que Sound United?
Sound United à la base est un groupe américain qui a racheté Polk et Definitive Technology, qui sont deux marques d'enceintes nord-américaines qui sont leaders sur leur marché. Et bien sûr, à force de développer leur marché sur le territoire nord-américain, ils ont vu que c'était intéressant d'avoir aussi de l'électronique, puisqu'ils n'avaient pas d'électronique. Mm-hmm. Ils ont racheté le groupe Denon Marantz, qui était déjà fusionné dans le monde. Donc maintenant, on fait partie du groupe Sound United. Donc il y a Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology, Classé et Bowers & Wilkins. Donc on a pratiquement 6 marques au catalogue. Et tout ça permet d'avoir une grosse synergie et de développer des produits en gardant l'identité des marques. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on va avoir cette force d'achat et de développement qu'on peut pas avoir si on est trop petit.
Avant de se tourner vers l'avenir, parce que, et c'est ça qui est super, c'est que ces marques-là subsistent, elles ont quand même souffert, toutes ces marques-là. Les Denon, les Marantz, qui étaient des marques, on va dire, mythiques de la hi-fi, années 80, années 90, etc. À l'époque du CD, des chaînes hi-fi au design épuré, japonaises, avec vraiment une excellente qualité de son. Elles n'ont pas su, en fait, pivoter ces marques-là. Elles ont raté pas mal de virages. Les enceintes connectées, les enceintes Bluetooth, les Sonos, etc. sont arrivées. Et là, patatras, quoi, ça a été compliqué pour elles.
Ça a été plus compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'on était sur de l'ingénierie classique avec des amplis traditionnels, des lecteurs CD. Donc le lecteur CD, malheureusement, disparaît doucement puisque la vente de disques chute malgré une légère reprise, mais elle chute énormément. Donc le disque CD est en train de partir aux oubliettes. La dématérialisation, en fait, tout ce qui est streaming, tout ce qui est fichier via Spotify, Qobuz, Deezer et tous les services qu'on peut avoir, est devenu le moteur de la musique. Et ça a relancé la musique. C'est en fait toute l'industrie de l'audio a chuté à un moment donné et est reparti maintenant
grâce au streaming. Mais c'est vrai que après, on va dire ceux qui achètent aujourd'hui des produits, des enceintes, etc., vont plutôt se tourner vers du Bluetooth, des petites enceintes, soit qui sont portables, soit qui se connectent au Wi-Fi avec Sonos, etc., etc. Et c'est vrai que le concept de mini chanifi qui était même connecté chez Denon, on pouvait installer Spotify, etc. Le home cinéma, tout ça. Eh bien voilà, on est passé dans une autre génération, dans une autre ère, alors, où ces produits étaient moins appétants, on va dire.
C'est un peu moins visible, parce que c'est vrai que le home cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de salles de cinéma privées qui s'installent en France. C'est un marché qui n'est pas vu, en fait, dans les panels type GFK, etc., puisque c'est des panels un peu compliqués qui vont plutôt mesurer ce que va faire un Fnac, Darty, etc. Par contre, tout ce qui se fait en installation domestique a toujours existé et continue de manière très forte, et a repris du pouvoir depuis le Covid aussi. Il y a aussi des éléments qui ont boosté ce chose, parce que les gens veulent les choses plutôt du cinéma chez soi. Et après, il y a toute la partie classique, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en fait, ces boîtes qui font 43 cm en amplifi traditionnel sont connectées depuis maintenant une dizaine d'années chez nous. Ce que personne n'a vraiment vu, ce qui n'est pas facile à voir, puisque ça ressemble à une boîte classique et ça a mal été communiqué. Et c'est vrai que maintenant, on a pratiquement toute la gamme. On peut avoir un ampli connecté, on peut avoir un lecteur CD avec une passerelle dedans, des passerelles, ce qu'on appelle des streamers. Donc tout ça existe en traditionnel, en très haut de gamme. Et c'est vrai que les gens ont sauté en France, qui est assez curieux, sur le Bluetooth en pensant que c'était de l'hi-fi. Malheureusement, le Bluetooth est une compression énorme du signal, parce qu'on envoie déjà un signal compressé en streaming, plus on le recompresse via le Bluetooth. Donc on a une dégradation du signal. Donc les audiophiles n'ont jamais vraiment plongé sur les enceintes Bluetooth, sont plutôt passés sur des enceintes Wi-Fi. Et pareil sur la hi-fi traditionnelle qui a évolué et qui maintenant, avec les composants et les DSP, permet de récupérer une très bonne qualité de son avec du streaming, sont passés sur des éléments traditionnels avec des fonctions streaming.
Oui, parce que ce qui vous sert finalement, c'est le progrès technologique. Aujourd'hui, quand on voit Apple Music qui propose des fichiers lossless avec du Dolby Atmos, Amazon propose aussi maintenant une offre lossless, il y a Deezer, il y a Tidal, on imagine que Spotify est dans les starting blocks et va bientôt proposer aussi son offre Hi-Fi. Finalement, ça conforte votre concept d'un son Hi-Fi qui était peut-être en désuétude pendant quelques années, mais qui revient sur le devant de la scène pour tous ceux qui font attention à ce qu'ils écoutent.
Oui, et en plus, de plus en plus, les gens aussi ont goûté aux casques, parce que les casques sans fil, les casques ont permis de découvrir de la musique, et on s'est aperçu qu'il y avait différentes qualités. Et on voit que cette qualité peut être aussi retransportée sur une enceinte ou sur un système Hi-Fi. Donc les gens goûtent à la qualité musicale et de plus en plus on voit les gens se tourner vers des produits de qualité. Donc on a un marché qui est entrée de gamme et un marché très haut de gamme qui bouge très bien. Et vraiment les produits home cinéma, les amplis traditionnels sont en train de reprendre une grosse part de marché, ce qui est très surprenant. Contrairement, là on a des enceintes qui passent à l'écran, mais il y a deux mondes en fait, il y a ceux qui veulent des produits très simples, sans fil, etc. Donc là il y a les enceintes connectées.
Voilà, il faut les contenter.
Il faut les contenter. Et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent quelque chose de beaucoup plus qualitatif, qui veulent ça ou en Hi-Fi traditionnel avec deux enceintes stéréo avec de très belles enceintes, ou un système home cinéma tout intégré. Donc on va offrir tous ces panels avec le groupe.
Est-ce que les prix de tous ces produits ont baissé justement à cause de la concurrence, à cause de du temps qui passe.
Alors si je dis que ça a baissé, il y en a qui vont hurler au loup, puisqu'en fait certains produits sont assez chers, hein, puisqu'on a des produits de 200 à 65 000 euros, il faut être assez clair. On a
65 000 quand même.
Oui, donc on
c'est
a
quoi
des...
65 000
Une paire d'enceintes.
Une paire d'enceintes, Bowers & Wilkins.
Bowers & Wilkins, oui, voilà. Donc on a des produits qui vont très très loin en prix. Après, si on regarde l'ensemble des fonctionnalités sur un produit, ils ont énormément baissé. Si on compare à il y a 10 ans, ce que peut faire un produit, c'est fascinant. Si on regarde aussi une enceinte sans fil avec transmission Wi-Fi pour du streaming, la qualité intrinsèquement du produit a énormément évolué grâce au DSP et la maîtrise des composants, surtout dans les membranes et tout ce qui est filtrage. On arrive à avoir des sons exceptionnels dans un petit volume.
Comment présenter ces trois marques, Denon, Marantz et Bowers & Wilkins, quels sont leurs aspects, leurs aspérités à chacune?
Je dirais que Denon est très technique, en fait, très en avance sur les technologies. C'était les premiers intégrés du THX, c'est les premiers intégrés de l'IMAX dans des produits grand public, c'est les premiers intégrés du Dolby Atmos.
Donc très home cinéma.
Très home cinéma, très technique, très en avance.
Aujourd'hui, j'ai un écran, une belle télé, je veux avoir un son qui pète, etc. Je peux avoir un système Denon.
Je peux avoir un système Denon. On a le pendant chez Marantz, mais on va avoir un tuning différent qui donne une plus grande chaleur, c'est-à-dire qu'on a un son plus chaud, plus rond, plus doux, plus audiophile quelque part. C'est pas vraiment juste de dire ça. Je dirais très simplement, Denon est plus monitoring dans son approche audio.
Oui.
Marantz est plus audiophile, plus chaud, plus rond.
Et plus Bose, on va dire, dans le son.
Ouais, on va dire ça. Et après, on a Bowers & Wilkins qui est très, très agréable, très doux dans les enceintes et qui est assez haut de gamme. Et après, on a des enceintes plus entrée de gamme comme Polk qui fait des enceintes beaucoup plus abordables. Leur but, c'est pas d'avoir des enceintes avec beaucoup d'esthétique, mais très, très abordables et très, très, très qualitatifs. Et on a Definitive Technology qui vient se placer au milieu, qui sont aussi, on dirait, beaucoup des produits très dynamiques.
Alors, donc, les produits historiques de chaque marque perdurent, mais il y a aussi des nouveautés.
Oui.
Et on ne peut pas passer à côté aujourd'hui des intra-auriculaires, de ces enceintes Bluetooth que tous les constructeurs sortent. Et c'est le cas pour Bowers et pour Denon.
Oui.
Alors, vous les avez apportés, c'est assez intéressant, parce que des intra-Bowers & Wilkins, est-ce que vous trahissez pas un peu quand même l'ADN de cette marque? Vous disiez tout à l'heure, le Bluetooth détruit le son, etc., mais là, c'est du Bluetooth et c'est du Bowers & Wilkins. On peut se dire quand même que c'est pas très logique.
Oui, donc là, on a mis de la PTX, un des plus élevés en APTX. Il n'y a pas encore le lossless dessus, parce que le lossless n'est pas encore disponible. Il arrivera bientôt, mais là, on est sur un APTX HD. Donc, on arrive à avoir une qualité CD en transmission.
Mais pas sur iPhone.
Pas sur iPhone,
parce
malheureusement.
Il n'y a pas la PTX. Il faut avoir un téléphone Android compatible avec la PTX.
Sinon, on peut le connecter via l'USB ou l'adaptateur Lightning du téléphone, et c'est le boîtier qui va transmettre dans la qualité.
Ah oui.
Donc, ça, c'est une
possibilité. Ça, c'est innovant.
Ça, c'est innovant sur le produit. Et après, c'est des casques qui ont été tunés et qui ont une qualité de son exceptionnelle dans cette gamme de prix. Je vais faire comme tout le monde. Mais en fait, je vous conseille vraiment de les écouter. C'est très tuné sur le son Bauer & Wilkins, on retrouve vraiment la sonorité Bauer & Wilkins.
Excusez-moi, je reviens juste une seconde sur cette fonctionnalité. Je branche donc le boîtier sur l'iPhone en Lightning. Et c'est plus l'iPhone qui va transmettre le son, c'est le boîtier, voilà. Pour qu'on ait la meilleure qualité possible.
La meilleure qualité possible, c'est fait aussi ça pour l'avion. C'est pratique aussi en avion, parce que souvent on ne peut pas avoir la connexion. Donc là, c'est hyper pratique, on a cette fonction-là.
Et on est à combien là ?
Là, on est dans les 400 euros quand même.
Donc le haut de gamme.
Le haut de gamme de l'intra.
En intra auriculaire. Et puis Denon aussi.
Denon, Bauer, c'est un petit frère qui est sans réducteur de bruit, puisque celui-là a un réducteur de bruit, hein, adaptatif. Et là, on est sans réducteur de bruit. Chez Denon, ça, c'est le modèle 830. Lui, on a un réducteur de bruit adaptatif, mais là, on est dans les 150 euros, donc beaucoup plus abordable, avec un casque ultra léger, qui fait à peine 5 grammes, donc hyper léger. Avec
un peu le look AirPods,
voilà, avec les micros en dessous, avec une très très bonne qualité de son audio pour la parole, donc c'est aussi très pratique en télétravail ou quand on veut sortir et continuer à téléphoner. Donc c'est vraiment un casque très léger, très pratique et avec une très bonne qualité. On retrouve la sonorité des Denon avec un son assez dynamique, assez pêchu, et une belle présence des graves. Donc
ça, et rappelons que tous les ingénieurs qui ont travaillé pour toutes les marques sont toujours là. C'est pas simplement un rachat de marque comme ça.
Non, c'est vraiment...
Vraiment, vous gardez l'âme de chacune des marques.
Chaque marque garde son ADN, chaque marque a son directeur général, chaque marque a ses ingénieurs. Après, on a un pot commun où on va mettre nos technologies communes, comme le système, le module EOS, ce qu'on va retrouver chez Marantz, ce qu'on va retrouver chez Definitive Technology.
Oui, pour réduire les coûts et pour...
Pour réduire les coûts et pouvoir développer et aussi pouvoir être présent sur le marché, puisqu'à un moment donné, il faut une certaine taille pour pouvoir acheter les composants.
Oui, c'est clair. Et bien voilà, Sound United, merci beaucoup Yann Guézi, rappelons que vous êtes responsable produit chez Sound United. Voilà, très intéressant cette renaissance de ces marques mythiques. Voilà, ce De Quoi Je Me Mêle est terminé, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite bien sûr un excellent week-end et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et au cas où vous ne sauriez pas, j'ai la chance d'être avec vous tous les soirs sur BFM Business pour Tech & Co entre 20h et 22h, là encore c'est de la tech, 2 heures de tech chaque soir. Le podcast est à votre disposition. N'hésitez pas à découvrir, à écouter cette émission et surtout à me dire ce que vous en pensez. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.